prends le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ça tourne pas. Bien, on place le corps en méditation. Et on essaie de laisser de côté tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et tout ce que nous ferons plus tard, demain, etc. Et d'être conscient de ce qu'est l'instant présent, tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous. Sans porter de jugement, sans analyser ce qui est, sans rejeter ce qui nous est désagréable, sans retenir ce qui nous est agréable, d'être conscient. L'esprit est vaste comme l'espace, il est libre, il ne s'accroche à rien, ne retient rien. En même temps, il est très clair, lumineux, donc il n'est pas opaque. Et il est conscient, il reconnaît les phénomènes, l'ensemble des phénomènes. Alors attention, il y a beaucoup de personnes qui méditent les yeux fermés. Attention à la torpeur, ça encourage la... Ça encourage la torpeur et puis ça donne aussi l'idée que pour méditer, il faut avoir les yeux fermés. Donc c'est difficile ensuite de faire le lien entre méditation et activité. Parce que dans l'activité, eh bien, on a les yeux ouverts. Et si on associe méditation avec les yeux fermés, eh bien, on voit que l'on médite quand on est assis sur son coussin, mais on ne sait pas comment méditer ou comment, on va dire, poser l'esprit en méditation dans notre activité, quand on marche, quand on fait ses courses, etc. La méditation n'est pas un état seulement lorsque, eh bien, nous sommes assis sur notre coussin. Donc, entraînez-vous à poser votre esprit dans cet aspect reconnaissance de la présence des phénomènes, sans les saisir, sans les rejeter, être simplement conscient de ce qui se passe, conscient des phénomènes, conscient de ce qui s'élève dans l'esprit, mais avec les yeux grands ouverts. Alors je comprends qu'à 19h, après toute la une journée d'activité, on ait envie de plutôt se relaxer. Hein, mais voilà, rappelez-vous ça de temps en temps, quoi. Alors, nous en étions à la question 11, c'est ça? 13, non. Comment travaille-t-on sur les facteurs perturbateurs selon l'approche Hinayana? Vous avez le questionnaire? Ah, vous n'étiez pas là? Oh, ben, voilà. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'entend-on par Hinayana? Petit véhicule. Et pourquoi appelle-t-on le Hinayana petit véhicule? Comment? Parce qu'il va pas vite.
Il va pas vite.
Ça, très bien, mais encore. Question 11. Pas vraiment, non. Il y a quelque chose après qui rejoindra ça. Mais pourquoi appelle-t-on ce véhicule petit véhicule? Quelle est la différence entre le petit véhicule et le grand véhicule? Les anciens, pardon?
Externe et interne, non, enfin,
je sais pas. Pardon?
Extérieur et puis l'intérieur, non?
Ah non.
C'est que pour soi, le petit véhicule.
C'est pour les armes.
On cherche l'éveil par soi.
Voilà, c'est la motivation du pratiquant. Dans le petit véhicule, le pratiquant cherche à se libérer du samsara. Donc la motivation est personnelle. Dans le grand véhicule, il n'est pas concevable de chercher la libération sans prendre en compte la libération de tous les êtres. Donc la motivation étant plus grande, étant plus large, on appelle ce deuxième véhicule le grand véhicule. Alors, il faut bien comprendre que cette différence entre les deux véhicules, hein, c'est dans la motivation du pratiquant. Parce que vous avez trop de personnes qui pensent que dans le petit véhicule, il n'y a pas les notions d'amour et de compassion, ce qui est faux. Hein, ce qui est faux. Mais c'est dans la motivation du pratiquant. Et c'est pourquoi dans le grand véhicule, il y a la notion de bodhisattva. Bien. Et vous avez une branche du grand véhicule qui s'appuie sur les sutras, les enseignements publics donnés par le Bouddha. Quels sont les pays représentatifs du grand véhicule qui... Alors d'abord, quels sont les pays aujourd'hui représentatifs du petit véhicule? Il y a des pays du sud-est, de l'Asie du sud-est qui sont grands véhicules. Alors, Cambodge, tout à fait. La Birmanie, Sri Lanka, et il y en a un autre. Ah non, c'est grand véhicule, Vietnam. Thaïlande. Ouais, Thaïlande. Ça, c'est vraiment les quatre grands pays, hein, où, à 100% le dharma dans ces pays est petit véhicule. Petit véhicule, on a tendance aujourd'hui à nommer ce véhicule Theravada plutôt que Hinayana, parce que petit véhicule, c'est devenu un peu péjoratif, surtout lorsqu'il est prononcé par des mahayanistes, hein, par des pratiquants du grand véhicule. Theravada, c'est littéralement le bouddhisme des anciens. Theravada, c'était une branche du petit véhicule qui subsiste aujourd'hui. Hein. Et le grand véhicule qui s'appuie sur les sutras, c'est quel pays ? Ah non, du tout. Non.
Non. Le Vietnam.
Le Japon. Alors le Vietnam, la Chine, le Japon avec l'amidisme et le zen. Ouais, ça c'est vraiment les... Oui, Vietnam. Voilà. Et par contre, alors le Vajrayana, c'est la branche du grand véhicule, hein, du Mahayana, qui s'appuie à la fois sur les sutras et sur les tantras, autre forme d'enseignement que le Bouddha a donné. Et il faut se rappeler que le Vajrayana ne s'appuie pas seulement sur les tantras, il s'appuie sur les tantras, mais aussi sur les sutras. Donc la forme du bouddhisme que l'on retrouve au Japon, en Chine, etc., se retrouve dans le Vajrayana. Et quels sont les pays qui représentent les plus représentatifs du Vajrayana? Le Tibet.
Le don la forêt.
Si vous voulez. Le Bhoutan. La Mongolie, oui, oui. Et puis il y a une école japonaise, le Shingon. Voilà. Alors, maintenant qu'on a défini les trois véhicules, selon le Hinayana, comment aborde-t-on les facteurs perturbateurs ? Alors ça, c'est les enseignements des mois derniers. Hein.
On regarde pas les filles.
Ouais. On ne tourne pas la tête. On ne regarde pas les filles.
Ah, chacun son truc. Comment ? On tranche, on coupe. Ça saigne chez vous, hein ? On ne regarde pas les filles, on tourne la tête, mais encore. Si... On observe une éthique, ça veut dire que dans les autres véhicules, on n'observe pas l'éthique ?
Non, on pratique les antidotes, c'est ça.
Mais quels sont les antidotes, justement, facteurs perturbateurs dans le petit véhicule ? Bon, vous avez évoqué quand même, de façon imagée.
On cherche par exemple le contraire de...
La règle. Oui.
On essaie de s'acculer vers la chose contraire, de, par exemple, compassion.
Ça, non, tout ça c'est grand véhicule. Ça c'est grand véhicule. Dans le petit véhicule, on va éviter le contact avec ce qui provoque, avec l'objet qui provoque les facteurs perturbateurs. Ça c'est très fort dans leur façon de faire. Si un objet entre guillemets fait naître de la colère, eh bien on va éviter cet objet, on va éviter d'entrer en contact avec la situation, on va éviter d'entrer en contact avec l'objet qui fait naître du désir, avec l'objet qui fait naître de l'orgueil, etc. Et pourquoi ? Parce que le facteur perturbateur, lorsqu'il est puissant dans l'esprit, il nous pousse à agir de façon négativement. Donc le deuxième élément qui est très présent, très fort dans le petit véhicule, c'est la réflexion sur la causalité karmique, sur le karma. Et donc, toute la vie des pratiquants du petit véhicule, eh bien, est rythmée par une série de préceptes, hein, qui va empêcher le contact avec ce qui peut faire naître un facteur perturbateur. Alors, c'est assez compréhensible, c'est facile à comprendre, c'est difficile à mettre en place, hein, dans une vie en société, c'est vraiment difficile. C'est pourquoi les moines vivent dans les monastères, sortent peu, et parce que leur vie est réglée selon ces préceptes-là. De notre côté, c'est pas parce que nous sommes pratiquants du grand véhicule que on doit se dire ça ne me concerne absolument pas. Ce sont des moyens qui ont été enseignés aussi par le Bouddha, et il y a peut-être des éléments dans notre vie si l'on peut, il est préférable de ne pas entrer trop en contact avec, parce que de toute façon, c'est difficile de travailler d'une autre façon sur ces facteurs perturbateurs, parce qu'ils sont trop puissants. Et donc, pour ne pas développer ces facteurs perturbateurs, il y a eh bien, aussi cette façon de faire qu'on peut adopter pour certains, en tout cas, facteurs perturbateurs. Les moines, c'est ça, par exemple. La vie monastique dans le Vajrayana ou dans le Mahayana, c'est ça. On va vivre selon certains préceptes de façon à ne pas établir de contact avec ce qui va faire naître tel ou tel facteur perturbateur.
Est-ce que ce n'est pas constant dans toute vie monastique, qu'elle soit de Bouddha ou d'ailleurs ?
Ça, sans doute, hein, mais ça, les autres voies monastiques, oui, ça, je ne les connais pas trop, mais oui, sans doute. Mais en tout cas, en ce qui concerne le dharma, c'est cela. Donc, cet élément du petit véhicule, il se retrouve quand même dans le grand véhicule et dans le Vajrayana aussi. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui ne nous concerne pas. Mais on peut, par le fait d'être dans le grand véhicule, fonctionner d'une autre façon par rapport aux facteurs perturbateurs. Alors, comment dans le Mahayana Sutra on travaille sur les facteurs perturbateurs.
On les transforme ?
Non.
Pas de saisie.
Comment ?
Pas de saisie.
Pourquoi pas de saisie ?
Parce qu'elles n'ont pas de facteurs n'existent pas en soi.
Oui, c'est-à-dire que là, on va travailler plus directement sur le non-soi des phénomènes, c'est-à-dire reconnaître la nature de ces phénomènes, que sont les facteurs perturbateurs. Si de la colère s'élève dans notre esprit, eh bien, on va s'efforcer de reconnaître que cette colère, par nature, est vacuité, que cette colère, elle est en apparence existante, elle est là, elle est présente, hein, mais qu'elle n'a pas d'existence propre, elle est vide d'existence propre. Et cette reconnaissance va permettre, eh bien, à l'esprit de se dessaisir de cette colère. Et puis, vous l'avez cité tout à l'heure, dans le Mahayana Sutra, on va mettre l'accent sur l'opposé du facteur perturbateur. Par exemple, si on a une tendance à être coléreux, eh bien, on va s'efforcer de pratiquer l'amour, la bienveillance et de développer ces qualités. Ce non-soi des phénomènes, il n'est pas pratiqué, ou en tout cas, on ne peut pas dire pas pratiqué, mais bien moins pratiqué dans le Hinayana que dans le Mahayana. Dans le Hinayana, on va beaucoup travailler sur le non-soi de l'individu. Ce non-soi de l'individu est pratiqué dans le Mahayana, dans le grand véhicule, mais on rajoute le non-soi des phénomènes. Et tous les phénomènes, eh bien, sont vus, on va s'efforcer de voir tous les phénomènes selon leur nature de vacuité. Donc là, il y a déjà une approche différente. On ne va pas rejeter le phénomène, mais on va accepter sa présence et le voir autrement que notre perception première. Et dans le Vajrayana, alors, ça a été dit tout à l'heure, vous avez dit transformation. C'est-à-dire qu'on va transformer ces facteurs perturbateurs en leur énergie primordiale de sagesse. C'est-à-dire qu'on va les reconnaître comme étant énergie de étant sagesse. Évidemment, ces phénomènes s'élèvent dans l'esprit, ils demeurent dans l'esprit, ils se dissolvent dans l'esprit. Donc, on les voit comme mouvement de l'esprit. Donc, ça, c'est Mahayana. Mais en reconnaissant cette nature de sagesse, on va pouvoir les utiliser de façon à leur leur permettre de devenir un chemin pour réaliser l'éveil. Et nous avons vu il y a deux mois de ça que nous devons absolument développer ce que l'on appelle la vue pour pouvoir les utiliser. Et la vue, c'est comprendre qu'ils sont vacutés, comprendre qu'ils sont clartés et comprendre qu'il y a la conscience qui permet de reconnaître ses qualités de vacuité et de clarté. Sans cela, on risque de les utiliser, mais non pas à une fin de transformation, mais de développer l'aspect perturbateur de ces facteurs. Donc, on ne peut pas se dire, parce que je suis dans le Vajrayana, eh bien, dès maintenant, je peux transformer les facteurs perturbateurs. Il faut savoir comment les transformer et comment les utiliser. Ça ne se fait pas comme ça. Cet ensemble de façons de traiter les facteurs perturbateurs, je répète, tous ces moyens ont été enseignés par le Bouddha. Rinpoche Rinpoche, lors d'un dernier séminaire, disait « Quel que soit le moyen que vous utilisez pour travailler sur un facteur perturbateur, ne vous posez pas la question de savoir si c'est Hinayana, Mahayana ou Vajrayana. Si c'est le moyen qui fonctionne à ce moment-là, c'est le moyen qui est approprié pour travailler sur ce facteur perturbateur. » On a tendance en Occident à découper le Dharma selon ces trois rondelles, petit véhicule, grand véhicule, et puis Vajrayana, quoi. Il faut avoir une vue d'ensemble de tous ces moyens. Hein. Oui.
Comment est-ce qu'on sait que ça fonctionne?
Comment est-ce qu'on sait que ça fonctionne?
C'est naturel, ça se voit.
Je veux dire qu'on n'a pas besoin de savoir si c'est dans les Nayana ou Vajrayana, qu'il faut utiliser le moyen qui fonctionne. Comment est-ce qu'on sait que ça marche?
Alors, Sonny, comment tu sais qu'un médicament fonctionne? Pardon ? Eh bien, c'est la même réponse. Mais faut-il prendre le médicament ? Faut-il tester le médicament ? Voilà, c'est exactement la même chose. L'expérience va nous dire que ce moyen était le moyen approprié. On le sait assez vite. Hein. Si j'ai de la colère qui s'élève, oui, mais toute l'acuité, cette colère est l'acuité, mais je suis toujours en colère et que la colère s'énerve. Il faut que je trouve un autre moyen, parce qu'apparemment, ce n'est pas le bon médicament. Quoi. Voilà. Et quelquefois, eh bien, peut-être que de se retirer de l'objet qui fait naître la colère, c'est le moyen qui est adapté.
Et si, mais l'objet, ce n'est pas évident de s'en retirer tous les jours.
Si on ne peut pas s'en retirer, il faut trouver un autre moyen. Si on peut s'en retirer, on s'en retire. Ça, c'est vraiment en fonction des situations. Chaque situation est unique. Chaque circonstance est unique.
Mais si on se retire de la situation,
ouais,
elle nous reviendra un jour, de toute façon.
C'est clair. Mais le but, quand le facteur perturbateur est là, c'est de ne pas se laisser envahir par le facteur perturbateur et de ne pas accomplir des actes négatifs. Ça, c'est vraiment le but. Et tout à l'heure, vous parliez d'éthique. L'éthique, c'est ça. Donc, après, effectivement, oui, il reviendra. Hein. Vous savez, même quand ça marche, de voir la vacuité de ce facteur perturbateur, ça se libère là maintenant, mais peut-être que dans une demi-journée, il y aura un autre objet qui fera naître encore ce même genre de facteur perturbateur. Hein. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est la pratique, c'est-à-dire l'entraînement de l'esprit à appliquer ces antidotes de façon à ce que les facteurs perturbateurs eux-mêmes perdent de leur puissance, perdent de leur force. C'est pas le facteur perturbateur lui-même qui est un problème, c'est la saisie de ce facteur perturbateur. Donc après, c'est tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour ne pas saisir ce phénomène comme les autres phénomènes, et on en revient toujours à cela. C'est bon, ça ? Alors, quelles sont les sept branches d'une prière à sept branches? Et dans l'ordre, hein, s'il vous plaît. On se prosterne pour la première branche, mais c'est pas la prosternation. Non. Hommage. L'hommage. Ensuite. Offrande. Très bien.
Confession.
Oui, dévoilement des actes négatifs. Puis. Bien, il y en a qui. Ah, voilà. Se réjouir. De quoi se réjouit-on?
Pour le bien.
Oui, de tous les actes vertueux de tous les êtres. Il y a de quoi faire en Occident de se réjouir. Hein. Ensuite.
La requête des enseignants.
Voilà, la requête du Dharma.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
On va voir. La requête du Dharma. Sixième branche.
Supplique.
Adressée au Bouddha afin qu'il se... La supplique des bodhisattvas. L'activité, la supplique des bodhisattvas, qu'ils continuent leur activité, de déployer leur activité. Et enfin, la septième.
La dédicace.
Bien. Comment ?
C'est quoi la septième ?
La dédicace. Alors, le mage. On va les reprendre. Alors, l'hommage, on traduit l'hommage par la prosternation. Alors, ça c'est intéressant de comprendre le sens de la prosternation. Pourquoi se prosterne-t-on ? Pourquoi vous avez fait trois prosternations tout à l'heure ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait de faire trois prosternations ?
C'est le fait de se purifier avant de se présenter.
Sans remettre. C'est vraiment sans remettre. C'est vraiment s'abandonner. La prosternation a le sens d'abandon, de s'en remettre. Oui, parce que en quoi s'en remettons ?
Ah
oui, alors justement, à qui rendez-vous hommage ?
Au
maître, il n'en a rien à faire.
À l'esprit,
C'est surtout à sa nature de Bouddha, surtout aux trois joyaux représentés par sa nature de Bouddha. Et ça, c'est très important.
C'est pas hommage alors ?
Hein ?
C'est pas au roi mage, c'est pas hommage.
Je vous préviens que c'est enregistré et il risque fort que ce soit cet enregistrement qui sera sur le site. Hein. Alors on verra le tuning de Melon après ça. Donc on s'en remet à sa nature de Bouddha. Et ça c'est très important. Tout le monde a confiance dans sa nature de Bouddha. Quand vous faites trois prosternations, vous êtes sûr que vous rendez hommage à votre nature de Bouddha ? Vous ne rendez pas hommage à une statue, vous ne rendez pas hommage à un enseignant ou à un Rinpoche, etc. La statue n'en a rien à faire, les enseignants non plus. Hein. Ils n'attendent pas ça. Hein. C'est face, c'est s'en remettre. C'est non seulement rendre hommage à sa nature de Bouddha, mais c'est s'abandonner à sa nature de Bouddha. Et c'est pourquoi on se prosterne. Vraiment, le sens de la prosternation, c'est je m'en remets, je m'abandonne. Et je m'abandonne par le corps, par la parole et par la pensée. Oui, par l'esprit. Alors, faut-il encore pouvoir reconnaître sa nature de Bouddha et avoir confiance dans sa nature de Bouddha ? Mais c'est un... Moi, je pense que ça, c'est un acte vraiment qu'on devrait faire, mais alors en toute conscience, quand avant un enseignement, quand on entre dans un temple, ça repose la question, mais qu'est-ce que je fais là ce soir, quoi ? Pourquoi suis-je ici à méditer, à recevoir un enseignement, à réfléchir à un enseignement, à vouloir le mettre en pratique par la suite ? Quel est le but de cela ? C'est développer quelque chose, ça va permettre de développer quelque chose que j'ai déjà en moi. Et si nous ne sommes pas sûrs que cette nature de Bouddha est en nous, alors on risque fort de rendre hommage à un aspect extérieur à nous-mêmes. Alors là, on est dans la dualité. Mais cette nature de Bouddha, cette sagesse, eh bien, nous devons la reconnaître en nous-mêmes. Et ça, c'est une expérience que nous devons faire par notre pratique. Et nous devons en faire l'expérience. Nous ne devons pas croire que nous avons cette nature de Bouddha parce que c'est dit dans les textes. Vous savez, un pratiquant du Dharma ne peut pas adopter un aspect du Dharma simplement par croyance. Moi, j'ai été très surpris, je ne sais pas si je suis venu à Meudon depuis, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Mais en Alsace, vous savez, il y a un comité interreligieux au niveau de la région Alsace. C'est la seule région en France où ça existe. Donc j'en fais partie. Il y avait les assises interreligieuses. Et le thème des assises, c'était la fraternité en action. Et c'était très intéressant parce que toutes les voies spirituelles présentes en Alsace étaient représentées. Pourquoi faut-il être fraternel ? Les chrétiens, parce que Dieu le demande. Parce que Matthieu, à tel endroit, Jean, à tel autre, le disent, le demandent. Les musulmans, sourate sur sourate, ils défilaient les sourates parce que Dieu le demande. Les juifs, dans tel texte, etc., Dieu l'exige. Il n'y en a pas un, je veux dire, qui parlait du devoir, entre guillemets, de fraternité, par exemple, à partir de l'interdépendance de l'existence de tous les êtres. C'est ce qu'on a développé, nous, en tant que bouddhistes. On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas pratiquer le dharma comme ça, parce que le Bouddha le demande ou parce que c'est écrit dans tel ou tel sutra. Nous devons comprendre par l'expérience ce que nous sommes en devoir de faire. Cette notion d'expérience est vraiment très importante. Se prosterner, faire 3 prosternations simplement parce que les Tibétains le font, il vaut mieux ne pas les faire. On n'est pas là pour faire du copier-coller de la tradition, de la culture tibétaine. Tout ce que nous faisons dans notre pratique spirituelle doit avoir un sens. Et nous devons comprendre ce que nous faisons. Parce que sinon, on est des petits automates ou des perroquets, ce que vous voulez, quoi. Donc à chaque fois qu'on fait 3 prosternations, mais on doit reconnaître en nous-mêmes que cette nature de Bouddha est présente et que si j'assiste à un enseignement, si je mets en pratique un enseignement, eh bien, c'est pour travailler sur cette nature de Bouddha, pour la développer, pour lui permettre, eh bien, de se développer auprès, non seulement pour mon propre bienfait, mais aussi pour le bienfait d'autrui. Et là, ça prend tout son sens. Et tout ce que nous faisons dans le dharma, nous devons vraiment en comprendre le sens. Et il y a donc cette notion d'abandon. Et ça, c'est vraiment la première des sept branches. On commence par l'abandon. Ensuite, on va faire des offrandes. Alors, les offrandes, elles sont au nombre de 4. Alors, c'est bien de les connaître, parce qu'il y a certains textes qui ne parlent que de l'offrande extérieure, mais d'autres textes qui parlent des 4 sortes d'offrandes. Donc, vous avez les offrandes extérieures, l'offrande intérieure, l'offrande secrète et l'offrande ultime. Ça, c'est les 4 formes d'offrande. Les offrandes extérieures, c'est tout ce qui réjouit les sens. Et c'est ce qui est symbolisé par les bols et l'offrande de lumière sur un autel. Les offrandes d'encens, les offrandes de fleurs, etc. Tout ça, les offrandes de nourriture, tout ce qui est agréable aux sens, eh bien, cela fait partie des offrandes extérieures. L'offrande intérieure, c'est l'offrande du nectar de sagesse. Alors, le nectar de sagesse, dans les rituels, surtout du Vajrayana, c'est de l'alcool, notamment du vin. C'est du vin. Dans certains rituels, eh bien, même les moines doivent boire un peu de vin. Ouais. Et comment ?
Du la viande aussi.
Oui, mais c'est pas l'offrande de sagesse, la viande, c'est autre chose, c'est la bodhicitta relative. L'offrande secrète, c'est l'offrande de la félicité de l'esprit, et c'est symbolisé par la félicité que l'on peut avoir en union sexuelle. Et puis, l'offrande ultime, c'est quoi l'offrande ultime ? Qu'est-ce que l'ultime ?
C'est la vie.
Bouddha,
justement, qui est en nous.
C'est la vie.
Il y a l'éveil.
Clair et net.
C'est le dharma.
Oui.
Le corps, oui.
Alors, essayez de toujours imaginer que vous êtes en train de donner une réponse à quelqu'un qui ne connaît rien au dharma. Alors vous dites, bon, c'est le dharmakaya. Oui, ben je doute fort que la personne qui ne connaît rien au dharma, elle sache ce qu'est l'offrande ultime. C'est l'offrande de la nature de toute chose, c'est-à-dire en fait de la vacuité, quoi. Alors, ouais, le Dharmakaya, corps absolu, voilà. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est, voilà, les quatre formes d'offrande. Troisième branche, dévoilement des actes négatifs. Ça rejoint ce qu'on a vu le mois dernier. Il y a des actes négatifs que l'on ne peut absolument pas dévoiler, que l'on ne peut pas purifier dans la pratique du dharma.
Non,
tout peut être purifié. Mais il faut quand même quatre conditions, qu'on appelle les quatre forces. On les a citées, on les a développées le mois dernier. Donc on les cite simplement. La force
du regret.
Oui, la détermination, la force de la détermination à ne pas reproduire ces actes négatifs. Donc force du regret, force de la détermination. La force du refuge, ça rejoint l'hommage. Hein. Il faut trouver en soi eh bien, cette potentialité de sagesse qui nous permet de ne pas reproduire ces actes négatifs, parce que ces actes négatifs sont accomplis sous l'influence de l'ignorance fondamentale. Donc, si on reconnaît cette sagesse, eh bien, effectivement, tout est là, quoi. Donc, la force du refuge, c'est important. Et puis, la force de l'antidote, quand même. La force de l'antidote. C'est-à-dire l'établissement de l'attention, l'établissement de la vigilance dans l'esprit, et puis et certaines pratiques de purification qui sont propres, par exemple, au Vajrayana, telles que la pratique de Vajrasattva. Voilà. Quand ces quatre forces sont présentes, eh bien, tous les actes sont purifiés. Alors, se réjouir de tous les actes positifs, de toute la vertu accomplie par tous les êtres. Et franchement, en Occident, on devrait travailler cette quatrième branche de la prière à cette branche, hein, parce qu'alors on tire de ses têtes. Je sais bien que le monde est ce qu'il est. Mais le samsara est plus supportable en Occident quand même que dans les autres parties du monde. Hein, j'ai eu il y a 2 jours de ça un coup de fil de Rajesh, simplement pour ceux qui le connaissent. Sa petite fille va enfin être opérée. Vous savez qu'elle a un problème de jambes. Elle doit subir 3 opérations à 2 ans d'intervalle pour chaque opération. Chaque opération, c'est 2300 euros. Il en gagne 200 par mois. Alors, vous imaginez, comment faire dans ces cas-là? Combien d'enfants en Inde, eh ben, ma foi, restent estropiés toute leur vie? On ne se pose pas trop ce genre de questions ici. Hein. Etc., etc. Et c'est quand même très frappant quand des Asiatiques viennent ici et qui nous disent « Mais quelle tête vous avez, quoi ?» Il y a quelques... Franchement... Alors, bien sûr que les médias ne véhiculent que les infos négatives, etc. Alors, sans doute que c'est moins porteur que de parler de ce qui va bien dans le monde. Mais on n'est pas obligé non plus de vivre comme des moutons à écouter toutes les 7 minutes ces infos négatives, quoi. Hein. On peut fermer la radio ou remplacer ça par autre chose. Hein. Et je pense qu'on a un travail à faire personnellement pour redonner un peu de joie intérieure, de retrouver un petit peu cette potentialité de vie d'enthousiasme pour vivre autrement. On tire tous des têtes. Quand même, il y a quelque chose qui...
On a peut-être moins de vie intérieure.
Alors après, voilà, ça, on peut peut-être étudier les raisons qui font que... Hein, mais, de temps en temps, il faut se poser ce genre de questions. Et on peut vraiment se réjouir, parce que il n'y a pas que des catastrophes. On ne parle que de ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de personnes, nous-mêmes, autour de nous, mais qui font plein de petites choses positives. Et à longueur de journée. Et si on regarde bien autour de nous, il y a plein de choses positives. Il y a plein de petites lumières partout. Et ça, c'est une richesse. Et ça, c'est quand même un potentiel. Mais on peut s'en réjouir, quoi. Et vous savez, on ne peut aider personne
si l'on n'a pas confiance dans notre potentialité d'aider les autres, dans cette potentialité de bienveillance, de bodhicitta, comme on appelle, etc. Un bodhisattva, c'est quelqu'un, mais qui est plutôt joyeux, qui est plutôt confiant. Il ne nie pas les difficultés de la vie. Est-ce que vous avez vu des Rinpoche tirer la gueule, quoi? Je n'en ai jamais rencontré un comme ça. Et pourtant, ils vivent tout ce que l'on vit. Hein. Mais ils ont une grande confiance, ils peuvent l'avoir parce qu'ils l'ont réalisé, mais une grande confiance dans leur nature de Bouddha, dans ce potentiel. Et je pense qu'en se réveillant le matin, au lieu de se dire « Bon, allez, j'ai encore ça à faire. Bon, » hein, si on se disait « Mais comment, par quels moyens je peux développer l'amour qui est là, la compassion qui est là, la bienveillance que je peux sentir en moi ?» Par quel moyen je peux mettre ceci au service des autres au cours de cette journée, dans l'activité que j'ai à développer, je crois qu'on démarrerait la journée peut-être différemment. Je pense beaucoup à ça quand même. Et ça, c'est la quatrième branche de la prière, à cette branche.
On ne fait pas peur aux gens de temps en temps quand on est justement heureux et que...
Oh là là, faites peur, alors faites peur.
Ouais.
Autant que vous voulez. Faites peur. C'est leur perception. C'est ouais, leur c'est perception.
Ça, ouais, mais il y a beaucoup, mais... aussi. En...
Mais...
On fait peur parce qu'on est toujours avec un sourire, même si...
Ah bah alors si... Que les gens aient peur de nous sourire, alors. Ah ouais. Oh, ça, alors, il n'y a pas de problème.
Les moutons.
Non, non, c'est pas une question que les... Je pense que les Rinpoche se posent trop. Hein. Ils,
voilà. C'est-à-dire que ça doit devenir un peu naturel, quoi.
Ah bah oui.
C'est vrai, ce qu'elle dit.
Ah ouais. Oui.
J'ai l'air de
chauffer,
joyeux, tout ça,
de
quoi tu joues là.
Ah, bah, c'est sûr.
Soit, naturel.
Bien sûr, mais bien sûr. Les Rinpoche, on sent tout à fait que c'est naturel. C'est entre eux. Ils sont entre eux.
Ils sont entre eux, comme je disais tout à l'heure, ils étaient entre eux, quoi. Ils sont pas dans la rue tous les jours au travail avec des gens.
Vous connaissez la vie des Rinpoche?
Non.
Ils sont entre eux, ils vivent pas cloîtrés dans leur monastère.
Non.
Oh bah non. Ringo Rinpoche, il faut voir comment où il est depuis fin avril, là il est en Europe jusqu'au mois de septembre en gros, et il ne rencontre que des cas.
Oh.
Ah oui. Les gens qu'il rencontre, c'est des gens dans les centres où il va enseigner, et vous avez sans arrêt des personnes eh bien, qui viennent discuter de leurs problèmes. De leurs...
À lui aussi. C'est, ah pas, oui. C'est oui. Pas en société où on travaille, où vous êtes heureux, et puis ça.
Ah non, non, ils ne sont pas du tout coupés du monde. Ils ne sont pas du tout coupés du monde. Mais alors, du tout. Ils vivent dans le monde. Mais simplement, plus voilà, en tout cas, oui, ils vivent vraiment dans le monde. Mais il y a quelque chose qui est différent, c'est qu'ils n'ont plus de saisie sur ce qui s'élève dans leur esprit. Mais ça, c'est la pratique. Ça, c'est la pratique. Mais ce qui montre aussi que lorsqu'il n'y a plus de saisie, eh bien, cette félicité qu'on appelle de l'esprit, elle est là, quoi. Elle n'est plus masquée par eh bien, les circonstances et les situations que l'on rencontre.
Je pense que c'est aussi puissant que les gens qui font la gueule.
Oui.
Voilà, c'est aussi puissant, je pense.
Oui, ils comprennent pas le sourire.
Mais les Rinpoche sont pas là à sourire à tout le monde.
Oui,
les Rinpoche sont pas là à sourire à tout le monde. Vous voyez Ringo Rinpoche, il est voilà comme ça dans le métro, à chaque personne qu'il croise. Non, non, ça c'est forcé. Ce qu'on veut dire par là, c'est ce qu'on appelle l'attitude juste. Leur esprit n'est pas perturbé par cette espèce de pessimisme qui nous habite, si vous voulez, et qui fait une montagne de la plupart des choses négatives. Il y a des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives. Par exemple, dans notre pratique, arrêtons de toujours vouloir purifier nos voiles, de toujours transformer ce qui ne va pas dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on met l'importance sur ce qui ne va pas. Et alors on ne voit que ça, on ne porte un regard ou de l'intérêt qu'à ce qui ne va pas. Sur nos manquements, sur nos facteurs perturbateurs, sur ça fait 30 ans que je suis dans le dharma, mais je suis toujours comme ci, comme ça, je manque de compassion, je manque d'équanimité, etc. Regardons plutôt ce qui va dans notre esprit et voyons tout ce que nous sommes capables de faire au cours d'une journée, eh bien, pour être bien avec soi-même et pour être bien avec les autres. Et bien là, y a plein de choses qui peuvent nous réjouir. Hein. Je crois vraiment. Alors ensuite, la requête du Dharma, ça c'est la branche suivante. Pourquoi faisons-nous la requête du Dharma? Pourquoi est-ce important?
Sinon, cet enseignement se perd. Donc, ça nourrit notre écoute, notre réflexion et notre pratique.
Mais ça veut dire quoi si vous demandez le Dharma, ça veut dire quoi?
À ceux qui le transmettent.
Oui, mais pourquoi vous en remettez?
Parce que ça marche.
C'est pas parce que vous en avez besoin?
Si.
Oui.
D'abord une. Oui, on fait la requête du Dharma, mais parce qu'on a besoin du Dharma. Et ça, c'est très important, puisque le prosélytisme n'a pas de mise dans le bouddhisme. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux personnes qui prennent refuge, c'est tout ce que vous saurez dans le Dharma, c'est ce que vous demanderez. Et c'est très fort, ça, dans le bouddhisme. Nous devons avoir soif du Dharma, nous devons faire la requête du Dharma. Mais on fait la requête du Dharma mais parce que nous estimons qu'on en a besoin. Qu'on a besoin d'éclaircir notre compréhension, d'approfondir, de recevoir le Dharma. On a besoin aussi de le mettre en pratique. Et on en a besoin parce que effectivement, on a envie de se libérer, on a envie de libérer les êtres, on a envie de développer ses qualités intérieures. Plus on pratique, plus on voit que ça marche, et bien plus on a envie de continuer d'approfondir le Dharma. Et il y a 30 ans de ça, eh bien, cette requête était à la fois assez présente en Occident, parce qu'il y avait une découverte du Dharma, donc il y avait une soif, si vous voulez, du Dharma, mais en même temps, elle restait assez superficielle. Il y avait un intérêt pour le Dharma, mais cette quête du Dharma, il y avait une espèce de boulimie. Et les Rinpoché venaient énormément en Occident. Et ils donnaient tout ce qu'ils donnaient. Moi, j'ai vu dans des centres, vous aviez 3 Rinpoché en même temps dans un centre. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Mais moi, j'ai vu Jamkhon Khantru Rinpoché, un des 4 régents de la lignée, quand même, avec Kalo Rinpoché, Boka Rinpoché. Un donnait une initiation le matin, l'autre l'après-midi, et le troisième une explication ou un enseignement le soir. Ça se passait en Normandie, et pendant 8 ou 10 jours, c'était comme ça. Est-ce qu'on n'avait pas tendance à collectionner les enseignements, collectionner les initiations, collectionner les pratiques, mais dans quelles pratiques on allait vraiment en profondeur? Ça, moins sûr. Moins sûr. Et quand les Rinpoché se sont aperçus que nous avions de l'intérêt pour le Dharma, mais que ce n'était pas suffisamment enraciné, suffisamment profond, ils se sont fait plus rares. Parce qu'ils se sont dit, s'ils veulent vraiment le Dharma, si le Dharma est quelque chose de précieux pour eux, eh bien, ils viendront le demander. Parce que quand on fait la démarche d'aller faire la requête du Dharma, eh bien là, ça correspond déjà à quelque chose de plus vital, de plus précieux, quoi. Et c'est vrai que depuis, eh bien, je trouve que il y a moins de collections d'initiations, etc., mais peut-être davantage d'approfondissement de telle ou telle pratique. Donc, c'est toujours ce sens-là. Nous devons, en fait, faire la démarche pour recevoir le Dharma. Et vous savez que dans la tradition tibétaine, on doit demander 3 fois. Pour être sûr eh bien, le lama doit être sûr que l'instruction demandée, c'est une instruction eh bien, qui va être mise en pratique, qui est sérieuse pour la personne. Et que ce n'est pas juste, oh, bah, tiens, oh, tiens, si, ça, c'est quoi? Oh, bah, tiens, un lama, c'est quoi cette, hein? Voilà. Ça, ça ne sert à pas grand-chose, si c'est juste une vague savoir, quoi. Voilà. Donc voilà, cette requête du Dharma. Ensuite, après la requête du Dharma, c'est de rappeler aux Bodhisattvas leur vœu de Bodhisattva, leur activité de Bodhisattva. Hein? C'est-à-dire que eh bien, nous avons besoin de la présence des Bodhisattvas qui œuvrent pour qu'il y ait un peu plus de bien-être dans notre façon de vivre à la fois matérielle et dans la façon de vivre aussi spirituelle. Ça fait partie de la compassion, ça fait partie de l'activité éveillée. Vous savez, les Rinpoche, il n'y a pas de retraite hein, pour eux. Il n'y a pas de 35 heures ou je ne sais quoi. Tant que le corps leur permet d'agir, ils agissent. Le jour où le corps ne peut plus, eh bien, ils en changent. Ils s'assoient, ils meurent, ils reprennent naissance de façon à reprendre une activité, mais qui soit puissante. Et regardez simplement Ringu Rinpoche, son emploi du temps. Quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient tenir l'emploi du temps de Sri Rinpoche. Quoi. Ils sont continuellement en voyage, en train d'enseigner à droite, à gauche. Bon, c'est vrai qu'ils ne font que ça, ils n'ont pas de lessive à faire, ils n'ont pas de cuisine à faire, ils sont pris en charge pour tout ça. Mais si vous regardez bien l'emploi du temps de Ringu Rinpoche, quand il se repose, c'est qu'il a 8 heures d'avion à faire ce jour-là. Quoi. Et là, il dort, mais alors, comme une souche pendant les 8 heures. Dès qu'il est dans une voiture, une heure de transport, il dort. Et il dit, ben là, il récupère. Parce qu'il sait qu'arrivé à destination... C'est tout de suite, tout de suite. Hein. Les gens sont là et tout de suite il y a des entretiens, tout de suite des enseignements, etc. Et puis enfin, la dédicace. Et ça c'est important de dédier tout ce que nous faisons de positif eh bien, à l'éveil de tous les êtres. Et c'est la dédicace que l'on fait après chaque session. Mais on devrait faire la dédicace plusieurs fois par jour, tout ce que nous faisons de positif, de façon à ne pas saisir ce que nous faisons, eh bien, on l'offre à tous les êtres. Et puis, le précédent Kalu Rinpoche disait aussi, mais dédiez, offrez à tous les êtres tout ce que vous vivez d'agréable, de plaisant pour l'esprit, eh bien, faites la dédicace. La première fois qu'il est venu en Occident, à Paris, eh bien, c'était, je crois, pour Noël, et il avait été... admiratif devant les décorations des rues de Paris pour Noël, et il avait dit à ses moines, offrez toutes ces lumières. Voilà. Bon, quel est le sens de la prosternation? Ça, on en a parlé, c'est bon. Que veut dire parfaire les deux accumulations, et quel est le rapport avec la bodhicitta, la relation avec la bodhicitta? Alors, quelles sont les deux accumulations? Mérite et sagesse. Alors mérite, c'est peut-être pas un mot qu'on aime bien, parce qu'il y a l'aspect méritoire. Si j'accomplis cet acte-là, eh bien, qu'est-ce que j'ai en retour hein? Le terme tibétain, c'est activité bienveillante. Donc c'est pas vrai. Hein? Mais sonam, c'est vraiment l'activité bienveillante. Accumuler, ça veut dire, eh bien, on se contente pas de dose homéopathique. Tout ce que l'on peut développer comme activité bienveillante, eh bien, on doit la développer. Par le corps, par la parole et par la pensée. Et puis, sagesse, eh bien, c'est la non-saisie. Alors, la relation de ces deux termes par rapport à la bodhicitta, le développement de l'activité bienveillante, c'est quelle bodhicitta? Relative. Et l'activité de la, comment, la sagesse, c'est la bodhicitta ultime. Et ces deux bodhicitta, ce sont les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas séparer ces deux bodhicitta. Donc, quand on développe la bodhicitta relative, on doit développer en même temps la bodhicitta ultime, la sagesse. Et la sagesse doit se développer avec une mise en pratique de la bodhicitta relative. L'amour, la compassion, cette bodhicitta-là, ça ne doit pas rester une vue de l'esprit, mais ça, ça doit se traduire dans des faits, dans une activité œuvrante pour développer ces qualités. Est-ce qu'il y a... vous avez ici la représentation de Dorje Chang, en bleu, là. Et vous avez... cette représentation qui symbolise la nature de l'esprit, la nature de Bouddha. Et Dorje Chang, il a la cloche dans la main gauche et le Dorje dans la main droite. La cloche, ça représente la sagesse, et le Dorje représente donc l'action, l'activité, la bodhicitta relative, la bienveillance, l'amour, etc. Mais les deux mains sont croisées au niveau du chakra du cœur, comme ça, en tenant ces deux objets. Pour bien montrer, le chakra du cœur, c'est vu comme le siège de l'esprit, pour bien montrer que la nature de l'esprit, eh bien, ce sont ces deux bodhicitta, mais croisés, qu'on ne peut pas séparer. L'une ne peut pas se développer sans l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit « Ah, oh ben moi, j'ai réalisé la vacuité », bon, déjà, s'il le dit, il y a doute, mais admettons. Et il vous dit « Bon, j'ai réalisé la vacuité », et vous ne sentez pas chez cette personne eh bien une activité œuvrante pour le bien des êtres. Et il n'a rien réalisé du tout. Parce que la sagesse s'accompagne automatiquement de ce qu'on appelle l'activité éveillée. Donc, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas séparer les deux. Alors, quelles sont les différentes sortes d'offrandes, les quatre sortes d'offrandes? Eh bien, ça, on les a vues. Question 18. Comment associe-t-on la sagesse aux actes positifs que nous accomplissons?
En les dédiant à les sans attache-lettre.
En faisant don à...
Non, en veillant à ce que ça soit pas notre ego qui est là, vous marchez vers
le... Alors, comment? Oui, mais comment? Il y a une méthode très précise. Non, il y a un truc très précis. Il faut être libre. Alors, le terme, c'est être libre de la triplicité. Triplicité. Peut-être mettre un peu de lumière, non? Parce que pour écrire, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Je ne sais pas. Alors, la triplicité, c'est être libre des trois formes de saisie. La saisie que l'on développe en tant que sujet qui accomplit cet acte. Donc, la saisie par rapport au sujet qui accomplit l'acte. La saisie qui est développée par rapport au destinataire de l'acte, et la saisie qui est développée par rapport à l'acte lui-même ou à l'objet de l'acte. Donc si on donne quelque chose, si on offre quelque chose, il ne faut pas développer de saisie « c'est moi qui donne », n'est-ce pas, hein? Voilà. Parce que là, il y a une très forte saisie. Il ne faut pas développer de saisie par rapport à qui on donne. Et il ne faut pas développer non plus de saisie, vous avez vu ce que je donne? Par rapport à l'objet que l'on donne.
Voilà.
Voilà. Donc, comment? On donne, voilà. Ouais. Sans retenir, sans saisir. Et si on est libre de ces trois formes de saisie, l'acte que nous accomplissons n'est pas simplement un acte vertueux, mais ça devient une paramita, c'est-à-dire une vertu transcendante. parce que cet acte est accompagné de la sagesse. Alors ça, c'est intéressant d'observer notre esprit aussi quand on accomplit quelque chose de positif. Sommes-nous toujours libres de ces trois formes de saisie? C'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que cet acte-là ne va pas être bénéfique si vous donnez, j'en sais rien, quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. Ça va être bénéfique pour cette personne, et donc c'est très bien. Mais si nous voulons vraiment que cet acte devienne un acte qui permette de réaliser l'éveil, alors, eh bien, nous devrions être conscients que là, oui, c'est très bien, mais là, j'ai une saisie là-dessus. Donc, il faut que je me libère de cette saisie. Voilà. Et ça, ce n'est pas
parce
évident.
On attend quelque chose.
Voilà, bien souvent. Ouais.
Oui, oui.
Comment ?
Non, je dis
que
ce n'est pas gagné.
Ah oui, oui, oui. Mais voilà, c'est ça l'entraînement hein, de l'esprit. Alors, est-ce que quelqu'un peut décrire la pratique de Tonglen ? Que veut dire Tonglen d'abord ? Tong. Tong, c'est donner, envoyer littéralement, tongwa. Hein. Tong. Et lenpa, c'est prendre. Qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'on prend?
Tout ce qui est positif,
oui. On prend ce qui est, on prend la souffrance et on envoie l'amour, ou en tout cas ce qui est positif. Alors, qui veut décrire la pratique de Tonglen? Allez, imaginez, quelqu'un de votre entourage vous dit, tiens, j'ai vu que vous faites la pratique de Tonglen, c'est quoi? Comment vous expliqueriez cette pratique?
On inspire en prenant ce qui est négatif et on expire en envoyant du positif.
Oui, ça d'accord, mais concrètement, comment vous décririez cette pratique?
Qu'est-ce que... Avec la compassion,
on a ce qui est bout de bras, on imagine une personne, par exemple,
voilà,
à qui on veut donner ça, alors on imagine sa négativité sous forme de choses noires,
ouais.
Un courant noir qui rentre en nous.
Ouais.
Et d'ailleurs, Rinpoche nous avait dit, on n'aime pas ça, recevoir la négativité pour nous, c'est pas tellement... Et puis après, en expirant, on envoie une lumière à cette personne. On n'arrive pas à le faire très longtemps. Ça.
Alors, d'abord, oui.
Mais avant, entre les deux, entre l'inspire et l'expire,
on transforme.
On détruit la...
On pense que ça se dissout et ça disparaît,
oui,
complètement.
Dans la couleur rouge, ça se dissout.
C'est-à-dire
et on voit ce
couleur rouge, non, rouge. Couleur noire.
Moi, non, mais après, on inspire la noire, oui. On détruit et on renvoie
Blanche.
La blanche.
On renvoie de la blanche.
Ah, oui. Mais entre les deux.
Non, non, mais ça, c'est différent. Ça, c'est, il y a différentes formes. Mais
ça existe.
Oui, oui.
Pratique, là,
mais vraiment, la pratique de Tonglen, d'abord, on ne fait pas que pour telle ou telle personne. On essaie de travailler vraiment sur l'équanimité. C'est vraiment tous les êtres. Donc, on imagine que tous les êtres sont en face de nous. Il n'y a pas que leur négativité que l'on prend. Il y a leur souffrance et les causes de leur souffrance. Hein? Donc, voilà. Il y a leur négativité, les facteurs perturbateurs, mais il y a aussi vraiment tout ce qui peut faire souffrir les êtres. Quand on ne peut rien faire concrètement pour... eh bien, leur apporter un bienfait, les libérer de la souffrance, eh bien, on peut encore agir par notre esprit et faire travailler notre esprit avec cette motivation. Donc, on visualise tous les êtres, on visualise que la souffrance et les causes de leur souffrance prennent l'aspect de lumière noire, et à chaque fois que l'on inspire, cette lumière se libère d'eux-mêmes et entre en nous par nos narines et vient se dissoudre dans le chakra du cœur. Et là, ça se dissout complètement. C'est-à-dire... on ne retient rien, il n'y a pas de saisie par rapport à tout ça. Mmh. Et quand on peut, dans des pratiques, ça s'est brûlé, c'est transformé,
voilà, on ne peut pas la garder, voilà.
Oui, mais de façon plus simple, la pratique de Tonglen, c'est bien de ne pas trop l'élaborer, parce que c'est une pratique que l'on peut faire dans le bus, quand on est en train de se promener, qu'on rencontre quelqu'un qui, par exemple... est en état de souffrance, et eh bien comme on inspire et qu'on expire tout le temps, eh bien, on peut associer cette visualisation à notre cycle respiratoire. Et quand on expire, on pense que dans notre chakra du cœur, c'est une lumière blanche d'amour qui sort par nos narines et qui vient baigner cette personne et lui apporter, eh bien, tout ce qui peut la rendre heureuse. Voilà. Et après, on inspire, lumière noire, on expire, lumière blanche, etc. On commence ce genre de pratique en visualisant nos proches, parce que notre esprit d'emblée va être plus favorable, va se sentir disposé pour faire cette pratique pour nos proches, surtout si on a un proche, par exemple, qui est malade. Mais il faut étendre cette pratique de façon équanime à tous les êtres, y compris nos ennemis, y compris la personne qui, il y a 10 ans de ça, nous a bien fait souffrir, par exemple. Et quand on y pense encore aujourd'hui, il y a encore une petite crispation dans l'esprit. Et puis, il ne faut pas s'oublier soi-même. C'est une pratique que l'on peut faire aussi, eh bien, vis-à-vis de soi. Tout ce que je n'aime pas chez moi, et, eh bien, je peux me visualiser en faisant cette pratique. Et si j'ai du mal à me visualiser, ben, je peux m'installer face à un miroir. Et là, celui-là, qu'est-ce que je n'aime pas chez lui? Eh bien, je prends tout ce que je n'aime pas sous forme de lumière noire, etc.
Plus facile à dire qu'à faire.
Exactement. Ouais. Tout à fait. Et quelquefois, c'est très difficile aussi de faire sur soi.
Vous avez dit tout à l'heure d'ouvrir les yeux, mais pour ces pratiques-là,
les visualisations,
on peut les fermer.
Ça peut vous aider. C'est plus facile. Parce que le support, à ce moment-là, peut-être, c'est plus facile. Ouais. Mais vous pouvez vous entraîner aussi les yeux ouverts, parce que quand vous êtes dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui est en état de souffrance, par exemple, que vous ne pouvez rien faire, eh bien, vous pouvez associer cette visualisation avec la respiration. Bokhar Rinpoche disait beaucoup, quand vous regardez la télé et que vous voyez les catastrophes qui se passent au Népal, par exemple pour le moment, eh bien, devant votre télé, vous pouvez très bien regarder le journal télévisé en faisant ton glen. Ça permet d'associer aussi un travail de l'esprit par rapport à l'événement que l'on découvre, la situation à laquelle on est confronté, si vous voulez. Mais effectivement, c'est pas toujours, dans tous les cas, facile. Hein,
oui, surtout quand c'est de la famille ou des amis qui ont fait du mal, ouais. Et puis il y a une culpabilité au départ, on le fait parce qu'on raisonne intellectuellement, c'est pas bien ce que j'ai pensé. Donc il y a une culpabilité et on le fait souvent.
Oui. Mais c'est vrai que quand on le fait et qu'on le fait suffisamment, ça peut débloquer des situations. Pourquoi ça débloque des situations? Parce que ça change notre perception de l'autre, ça change notre perception de la situation. Et donc, notre perception changeant, eh bien, on va avoir une façon de répondre à la situation différente. Quelle est la traduction du mot Mahamudra en français? Le grand sceau, comment vous écrivez sceau? Aussi, oui, ça peut être ça, oui, aussi, oui. Ça peut être ça, le grand sceau, ouais. Non, c'est l'empreinte. Et pourquoi on appelle ça le grand sceau? Comment? Ça évoque la vacuité, ça évoque la nature de toute chose. Donc c'est vraiment l'empreinte de toute chose. C'est ce qui scelle absolument toute chose. Voilà. Alors, pour notre lignée, c'est Mahamudra. Pour les Sakyapa aussi, je crois. Pour les Nyingmapa, c'est plutôt Dzogchen ou Mahati. Les Gelugpa, c'est plutôt Madhyamika. Mais c'est tous des termes différents qui, en gros, veulent dire tous la nature de l'esprit. Hein. Alors, quelle est la traduction des mots chiné et laktong? Chiné, en sanskrit, c'est shamatha. Qu'est-ce que ça veut dire?
Calme mental.
On traduit par calme mental. Mais les deux syllabes, chi et né, chi veut dire pacifier, apaiser. Et né, stabiliser, demeurer dans cette paix. Ouais. Donc, hein, sine, ça veut dire demeurer dans la tranquillité ou dans la paix de l'esprit. Et attention, la paix de l'esprit, ce n'est pas un esprit dans lequel il ne s'élève rien du tout. Les Rinpoche qui demeurent dans la paix de l'esprit, eh bien, il continue d'avoir des pensées, il continue d'avoir des sensations, il continue d'avoir des perceptions. Voilà, ça fonctionne, leur esprit fonctionne comme le nôtre. Seulement, rien n'est saisi. Et c'est parce qu'il n'y a pas de saisie que la paix demeure. Voilà. Et l'Aktong... Alors on appelle ça la vision pénétrante et on voit la vision supérieure aussi. Et c'est le terme exact de l'Aktong. Tong, c'est voir, et là, c'est supérieur. Alors j'aime bien le mot vision pénétrante parce que ça donne l'idée que la vue qui pénètre la nature même de toute chose en termes de compréhension et d'expérience. Mais l'Aktong, littéralement, c'est la vue supérieure. C'est comprendre en fait la vacuité de toute chose, le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes. Voilà. Pour pouvoir voir, il faut que l'esprit demeure paisible. Donc il faut commencer par chiné et ensuite passer à l'Aktong. Alors, qui veut définir le terme vacuité? Comment? Très bien. Ouais. Vide d'existence propre.
C'est du
C'est bien, merci. Vide d'existence propre. Ouais.
Disais Jean-Jacques,
non-dualité. Oui, mais ça ne veut pas dire que rien n'existe. Mais ça n'existe pas tel que on imagine que ça existe. Ben, c'est-à-dire que voilà, un phénomène, un arbre, n'existe pas tel que j'imagine qu'un arbre existe. Il faut voir, en fait, que cet arbre existe par interdépendance de toute chose. Et parce qu'il est dépendant de cette loi d'interdépendance, alors il est vide d'existence propre, parce qu'il existe par rapport à tout ce qui le compose, etc. Donc on ne peut absolument pas associer vacuité au nihilisme, à non-existence. Ça, c'est très clair. Il y a beaucoup d'Européens, fin 19e, début 20e, qui se sont tous plantés en disant que le bouddhisme était une voie nihiliste. Ça n'a jamais été une voie nihiliste. Ce n'est pas une voie éternaliste non plus. Comment on pourrait dire, on pourrait qualifier cette voie? Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, et c'est exactement ça, la voie du milieu. Hein, c'est peut-être une voie réaliste, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Ou comment laisse-t-on reposer l'esprit dans sa nature propre? Ouais, alors oui, dans la méditation. Mais quand on dit dans la méditation, voilà, il faut demeurer dans la nature, dans l'état naturel de l'esprit, on dit souvent ça.
En laissant passer les pensées sans s'y accrocher.
Ouais. Donc, effectivement, voilà, laisser passer tous les phénomènes, pas seulement les pensées, hein, mais laisser passer tous les phénomènes, mais plus que ça. Il faut reconnaître la nature des phénomènes qu'on laisse passer. Donc on comprend pourquoi on les laisse passer, parce qu'on ne peut absolument pas les saisir, ils sont tous impermanents, tous en mouvement, tous interdépendants, donc on ne peut rien saisir, ce n'est que du mouvement. Mais il faut reconnaître aussi la nature de la conscience qui perçoit ces phénomènes, ou qui reconnaît ces phénomènes comme étant de même nature. Voilà. Alors quand... C'est, on va dire, l'union de Chiné et l'Aktong. Hein. Voilà. Mais ça, l'idée, c'est que on perçoit, ou comment dire, on fait l'expérience de tous les phénomènes, quels qu'ils soient, selon cette nature de vacuité et donc de non-saisie. Et quel qu'il soit, pas seulement ce phénomène-là, il ne m'est pas sympathique, alors oui, bon, bah, je le laisse passer, etc. Mais celui-ci, j'aime bien, alors je l'entretiens et je le saisis pendant une demi-heure et je me fais un film pendant une demi-heure. Voilà, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que les textes disent de même saveur. Voilà. Pour tous les phénomènes pareils, quels qu'ils soient. Même un phénomène, une pensée, par exemple, qui jusque-là nous embarrassait ou que l'on pouvait considérer comme entre guillemets négative, eh bien, il faut s'habituer à la voir comme une autre pensée. Mm-hmm. Et vous vouliez dire, Michel ?
Je voulais vous poser une question justement sur l'exercice qu'on fait en début de session, de méditation, où on cherche cette stabilité et de laisser passer cette attention consciente. Est-ce que cette attention, en fait, elle est fluctuante aussi? C'est ça, des fois, qui me perturbe, moi, parce que je me dis, on sent que ça bouge. Des fois, on fait attention, des fois, on fait plus. C'est tout le temps en mouvement. Est-ce que c'est juste?
Mais oui, bien sûr.
Oui.
Ouais.
Parce que des fois, on s'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de très stable, quoi, qui est là. Ouais. Mais c'est pas ça, la
mais stable. Mais, comment? Cet état d'attention, même si ce sont une succession d'instants d'attention, cet état d'attention devient quand même stable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui s'installe et qui est toujours en train de reconnaître la nature des phénomènes, par exemple, qui traversent l'esprit. Et quoi que vous fassiez.
Oui.
Et ça, c'est vraiment quand Chiné est établi dans l'esprit.
Mais malgré les fluctuations, quoi, c'est ça. Oui. Voilà. Mmh. Dans ces fluctuations. Mmh.
D'accord. Oui.
Juste une question, puisqu'il s'agit de reconnaître les phénomènes, est-ce qu'on les nomme dans la pratique? Quand on reconnaît.
Non, il n'y a pas besoin de les nommer. Il y a reconnaître la présence de ce phénomène et reconnaître sa nature. Après, le nommer, c'est déjà, en tout cas, lui porter une attention plus soutenue et ce n'est pas nécessaire pour reconnaître sa nature.
La nature, c'est la joie, la colère, la tristesse.
Telle pensée, telle sensation, tel facteur mental, quel que soit le phénomène, c'est reconnaître sa nature de vacuité. Reconnaître qu'il est totalement vacuité, qui n'a aucune existence par lui-même et qui ne fait que passer, ce n'est que du mouvement. Ouais. Quelle est la traduction du mot yidam? C'est-à-dire?
J'ai bidoché. Hein. C'est un symbole de méditation qui personnifie notre nature, notre propre nature de Bouddha.
Ouais, mais le mot yidam, qu'est-ce que ça yidam veut dire? Yi. Yi, c'est l'esprit. Dame pure. Donc, c'est bien une représentation de l'esprit pur. Par exemple. Et donc c'est un symbole, c'est-à-dire qu'il nous met en relation avec ce que nous sommes.
Oui.
Et le mot yidam, c'est en tibétain ordinaire. Vous savez que la langue tibétaine, il y a une langue ordinaire et une langue honorifique. Mm-hmm. Et yi, pour l'esprit, à l'honorifique se dit tuk. Donc quand on dit qu'un maître est mort en tukdam, ça veut dire qu'il est mort en état de yidam. Mais c'est simplement à l'honorifique. Ça veut dire que son esprit était totalement, par exemple, en tant que Chenrezig. Voilà, il était dans la pratique de... Il était identifié, un, si vous voulez, avec le yidam qu'il pratiquait. Voilà. Allez, encore deux questions, parce que la 27e, ça, il faudra du temps. Mais par quel moyen du Vajrayana unit-on Chiné et Lhaktong? Alors ça, bon, les personnes nouvelles, peut-être, c'est un peu compliqué, on n'a pas vu les pratiques du Vajrayana. Mais quand on fait une pratique de Yidam de Chenrezig, par exemple, mais les préliminaires, l'arbre du refuge, ou Vajrasattva, peu importe. Vous savez que le Mahamudra, ou l'éveil, c'est l'union de Shiné et Laktong. C'est lorsque cette reconnaissance de la nature de l'esprit est stable, est stabilisée par Shiné. Donc, dans une pratique de Yidam, par exemple de Chenrezig, forcément, on doit retrouver l'union de Shiné et Laktong. Dans une pratique de Yidam, qu'est-ce qui correspond à Shiné et Laktong ?
La phase de développement,
ouais.
De création.
Oui, phase de développement ou phase de création. Ça, c'est Shiné et Laktong, les deux. Ça inclut les deux. Et ensuite, vous avez toujours la phase d'achèvement qui correspond à l'union des deux, ou Mahamudra. La phase de développement, c'est quand on met en place la visualisation, quand on récite le mantra, qu'on fait les offrandes, etc. Récitation de mantra. Et la phase d'achèvement, eh bien, c'est quand on détruit toute la visualisation et qu'on laisse, comme on disait tout à l'heure, l'esprit demeurer dans sa nature propre. Voilà. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Et enfin, quels sont les deux piliers sur lesquels doit reposer notre pratique du Vajrayana? Quand on pratique vraiment le Vajrayana, il y a deux piliers qui sont les fondations du Vajrayana. Qui sont? Waouh, bien! Ce mot a fusé, alors qu'en général, il est difficile à sortir. Le renoncement au samsara, le renoncement à la souffrance, le renoncement à dukkha. Ça, c'est le, ouais, ça, c'est le premier pilier. Hein, nous, alors c'est comment dire, c'est pas propre au Vajrayana, le renoncement au samsara, hein, ça doit être présent dans toutes les écoles bouddhistes, mais dans le Vajrayana, il faut surtout pas oublier ça. C'est renoncer au samsara. Et le deuxième pilier, la bodhicitta, tout à fait. La bodhicitta, l'esprit d'éveil. Alors la bodhicitta relative, c'est-à-dire eh bien, l'amour, la compassion, donc on va pratiquer pour tous les êtres. Et avec la bodhicitta ultime, eh bien, c'est pratiquer la non-saisie, parce que la saisie est la cause de dukkha, la cause de la souffrance. Donc le renoncement au samsara, c'est le premier pilier, et la bodhicitta, à la fois relative et ultime, c'est le deuxième pilier de la pratique du Vajrayana. Et puis on arrêtera là, parce qu'après c'est décrivé le symbolisme de Chenrezig. Là, ça prendra un petit peu de temps. Mais on finira au mois de juin, hein, avant la petite fête. Hein. C'est bon, autre chose à dire par rapport à tout ça? Bon, ça fait peut-être beaucoup d'infos, hein, mais Orgien est en train de faire les CD, il est un peu en retard, hein, dans les CD, puisque il fait ceux de février, mars, il n'y en avait pas, puisqu'on était en Inde, il fait les ceux d'avril, et puis il fera celui du mois de mai. Le mois prochain, je viens avec les 3 mois de CD, voilà.
Ouais. Est-ce que, comme on a évoqué les pratiques, est-ce que l'année prochaine, on ne pourrait pas de temps en temps faire au moins la pratique de Chenrezig?
Ceux qui sont dans l'Aktong, oui. Parce que vraiment, je ne sais pas comment faire avec Meudon, parce que je ne viens qu'une soirée, mais à Luce, par exemple, pour les Mahamudra 2, on voit tout à fait autrement l'approche d'un Yidam tel que Chenrezig. Si vous voulez, pendant des années, nous avons pratiqué un Yidam comme Chenrezig en le voyant comme extérieur à nous-mêmes, même si on nous disait sans arrêt que Chenrezig, ça représente ce que nous sommes. Bon, et dans les week-ends Mahamudra 2 à Luce, les personnes arrivent à expérimenter que leur esprit, quand il demeure un court instant dans cette nature fondamentale, ils expérimentent que leur esprit, malgré les voiles, est totalement pur. Et à ce moment-là, ils comprennent pourquoi Chenrezig est blanc. Ils comprennent aussi, ils expérimentent aussi que l'amour, ils le ressentent, ils ressentent de la compassion, ils ressentent que cet amour et cette compassion ne se développent pas uniquement pour des proches, mais qu'il y a une expérience, mais alors vraiment pour tous les êtres, c'est-à-dire une expérience d'équanimité, et en même temps ils expérimentent une félicité de l'esprit. Et bien là, ils expérimentent les quatre bras de Chenrezig. Si vous voulez, c'est par l'expérience qu'ils ont de la méditation, et bien qu'ils comprennent pourquoi Chenrezig a cette forme-là, et en quoi Chenrezig est un moyen qui va leur permettre de développer ce qu'ils expérimentent au niveau des sutras. Et ça, je trouve que c'est une approche plus profonde dans le sens où ils voient Chenrezig comme un moyen qui va leur permettre de vivre ou de développer ce qu'ils goûtent déjà, ce qu'ils expérimentent déjà par les sutras. Donc là, ils voient l'utilité des tantras. Jusqu'à présent, on faisait beaucoup l'inverse. On disait, oui, Chenrezig, ça représente ce que nous sommes. Alors, on s'identifiait à Chenrezig, mais on n'avait pas goûté à l'équanimité, on n'avait pas goûté à l'ensemble de ce que représente symboliquement Chenrezig. Les personnes qui vivent le Yidam comme ça, c'est une évidence pour elles. C'est vraiment une... C'est pas du plaqué. Ils comprennent immédiatement, à ce moment-là, l'utilité d'un Yidam. Et tous n'adoptent pas la pratique d'un Yidam. Après tout, c'est pas obligatoire. Et vous êtes l'ancienne école?
Non, moi, je me souviens avoir été prête à aller au Chenrezig. J'ai besoin de faire numéro 2 pour ressentir exactement les mêmes choses.
Oui,
pratique
mais...
en permanence et ça.
Oui, mais il y a combien de temps que vous êtes dans le
monde?
D'accord,
voilà. Je suis tout ça.
Mais vous avez beaucoup trop de personnes qui pratiquent des moyens, et je ne parle pas de vous, hein, mais beaucoup trop de personnes qui pratiquent des moyens propres au Vajrayana, qui 20 ans après sont toujours en train de pratiquer de façon, comme disent Khandro Rinpoche ou Dzongsa Rinpoche, de façon théiste. Écoutez, la majorité des gens qui pratiquent le Vajrayana en Occident pratiquent de façon théiste. Et il faut absolument éviter ça. C'est-à-dire de voir le Yidam comme ayant une existence qu'ils ne vivent pas en eux-mêmes, qui existe ou qui à l'extérieur d'eux-mêmes.
Vous le disiez de s'identifier au Yidam et prendre ses qualités. Voilà,
non, mais ça, je ne parle pas pour vous.
Hein. Non, mais moi, j'explique.
C'est très bien.
Je ne fais pas le deux, mais très bien.
Oui, en même temps, comment? L'Aktong, vous avez suffisamment de pratique aussi de l'Aktong pour vivre ça d'une autre façon avec le Yidam. Mais alors des personnes qui sont anciennes dans le Dharma, oui, ça marche très bien, mais des personnes qui commencent immédiatement par le Vajrayana, moi j'ai vraiment des doutes maintenant. Je préfère que la personne, elle ait une expérience à partir des sutras, et qu'ensuite elle voit comment le Vajrayana peut lui permettre de développer l'expérience à laquelle elle a goûté.
Je suis un peu perdue dans les mots.
Le sutra, c'est pratiqué comme on a fait tout à l'heure.
D'accord.
Voilà. Sans visualisation, sans mantra. Sans,
parce que je confonds Chiné et Tong.
L'Aktong.
Je les confonds tous les deux parce qu'on peut faire les deux ici en temps.
Recevoir des instructions pour l'Aktong. Il faut recevoir des instructions. Ces instructions sont graduelles et il faut quand même une stabilité de l'esprit parce qu'on va chercher voir la nature de l'esprit stable, de l'esprit en mouvement, etc. Donc ça s'enchaîne, c'est étape par étape. Comment ?
Est-ce qu'on t'en fait, quand on fait les mantras, ça n'aide pas au développement ?
Le mantra, la définition du mot mantra, c'est protection de l'esprit. Donc c'est un très bon support pour éviter la distraction. Et voilà. Mais le mantra en lui-même ne va pas, vous faire émerger la compréhension de la nature de l'esprit. Hein. Non, il faut voir. C'est ce qu'on appelle la vue pénétrante. Il faut voir la nature de l'esprit, à la fois calme et l'esprit en mouvement. Donc, alors au mois de juin, bon, on finira, mais au mois de juin, il est de coutume de faire une petite fête. Tout le monde vient avec quelque chose à grignoter, à boire, et donc on maintient la coutume pour la prochaine soirée. Tout le monde est pour ? Alors très bien. Voilà, ça sera un peu plus convivial. D'accord, très bien. Parfait. Toujours à 19h. Très bien. Donc on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.